Allô, Michael?
Allô?
Salut!
Salut, salut.
Alors, bienvenue pour ton podcast du mois de septembre avec Cyberphysique. Donc, je vais comme maintenant récapituler de quoi on va parler. Donc, le sommaire. Donc, on a eu Olympia le week-end dernier. Donc, on va essayer de faire le point. On a vu qu'on avait un nouveau champion. On va aussi parler de la blessure de Branch. Il y a un mec qui veut savoir... qu'il en est, la déchéance de Milos. Donc là, on a vu récemment une photo de Milos qui faisait un peu peur.
Ah bon, je sais pas, j'ai pas vu alors.
Ah, t'as pas vu? Bah, je vais te raconter après alors.
Il a fui les États-Unis, mais.
Et on me demande aussi les entraîneurs qui semblent les plus compétents au niveau pro. Et donc après, donc on va faire un podcast spécial entraînement parce qu'il y a eu une tonne de questions là-dessus. Et donc ça nous permet d'annoncer en fait qu'on fera des podcasts un peu plus régulièrement. Donc après une fois, on parlera plus de diète et on verra les autres questions qui sont posées. Donc c'est parti pour ce podcast. Donc on a eu l'Olympia le week-end dernier avec, on a vu la victoire de Phil Heath. Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon représentant?
Bah j'espère, ouais. Cutler, on commençait à l'avoir assez vu et puis Kai Greene, ça vaut mieux qu'il soit pas le représentant des culturaux.
Bah, j'ai trouvé que Kai Greene n'était pas arrivé très en forme. Là, j'ai vu 3e, mais pour moi, il méritait pas la 3e place, quoi, comparé à d'habitude. Non?
Je sais pas. C'est difficile de savoir par photo et par vidéo. Souvent, il y a des surprises par rapport aux mecs qui sont présents. C'est un peu Freeman. Freeman, quand tu le vois en photo ou en vidéo, il fait moyen, mais quand tu l'as en face de toi, il a un muscle qui fait vachement naturel, donc il domine vachement tout le monde, quoi.
Ouais, mais après, sur scène, il rend pas Freeman, par exemple.
Et sur scène, tu l'as déjà vu sur scène ou t'as vu juste...
Les photos, je vois les photos.
Ouais, c'est super trompeur, il y a des gars, tu les vois...
Ah, mais ce que tu dis, Freeman, il devrait finir devant les autres mecs, alors, vu que déjà, c'est la façon le plus grand et le plus lourd, presque.
Ouais, non, mais c'est pas ça, mais... Bah, non, justement, en général, l'IFBB, ils aiment pas les mecs qui font naturel... Il y en a un autre qui est comme ça, c'est je sais pas s'il est pas il avait gagné une compétition, Antoine ou je sais plus comment il s'appelle.
Vaillant?
Non, pas du tout.
Tu me dis un mec qui paraît naturel, à quoi, un Canadien?
Je sais plus si, mais il a un nom, c'est un prénom. Un noir qui a un muscle qui fait.
Ouais, putain, merde, je vois plus son nom. Ouais, t'as raison.
Il était dans les choux, en tout au tout, il était dans les choux, alors que il a un muscle qui fait vraiment naturel, qui est agréable, quoi. Il fait pas tout gonfler aux stéroïdes. Mais ça passe pas.
Ouais, donc là, Phil, quand même, il est arrivé vachement en forme, quand même, pour Olympia, on peut dire.
Mais il était bien, c'est sûr qu'il est... Il a toutes ses poses et tout.
Il était vachement... Moi, je l'ai trouvé plus gros que l'année dernière, si on compare les photos.
Ouais, c'est un peu bizarre parce que on dirait qu'il a un meilleur abdomen, mais on dirait qu'il a pris de la largeur de taille aussi.
Ouais, bah c'est ce que j'ai remarqué aussi, parce qu'il y a un mec qui a mis les deux photos de l'année, je me suis dit putain, il paraît plus sec, plus dur et tout, mais la taille en fait c'est élargie, quoi. Moins le ventre rond, mais plus large.
Et l'année dernière il était malade aussi, je crois que c'était cette année-là.
Bon là, il a gagné, Cutler fait 2. Bon, troisième Kai Greene, ouais, comme je dis, il est pas aussi strié que d'habitude, quoi, là, sur les photos. D'habitude, il est archi strié, on voit ses cuisses, son dos.
Parce que il s'est toujours planté à Olympia. Donc c'est sa meilleure forme à Olympia. Et puis, là où il était le mieux, c'est quand il a gagné l'Arnold, je crois que c'est la première fois. Donc il est pas encore revenu à ce niveau-là.
Mais quand c'est vrai que les mecs, ils arrivent pas à enchaîner,
Il y a beaucoup une question de chance aussi sur le timing. Hein.
Comment ça?
Bah non, mais sur le timing de préparation pour être super en forme à une heure très précise. Regarde Cutler, et il l'a été une fois en 2001, puis jamais plus ça s'est reproduit, quoi.
Ouais, enfin bon là, Cutler, on l'a vu vachement amoindri. On avait l'impression qu'il s'avait même injecté un truc dans le biceps, là.
Ouais, mais ça m'étonnerait pas, ouais.
Toi, tu disais que c'était quoi, un anti-inflammatoire?
Bah, c'est possible, et puis il y a encore d'autres trucs, parce que quand il est en double biceps devant, la forme du biceps a changé, alors qu'elle aurait pas dû, en double biceps dos, d'accord, mais il a un pic de biceps super étonnant en double biceps devant.
Donc t'as des doutes sur, sur ce qu'il y a dedans.
Non, mais là, il a dû mettre quelque chose pour masquer ou et puis c'est ça qui a dû faire un hématome énorme.
Mais
Parce que
ce qu'on voit là, en fait, c'est que de plus en plus de pros se blessent quand même. Avant, c'était moins courant, quoi, que les mecs se blessent.
non, c'est pas moins courant, c'est que les mecs en parlaient pas.
Ah, c'est même pas exemple, c'est que ça se voit, ça nous saute à la gueule, quoi.
Ah, ça te saute à la gueule parce que je l'ai dit, mais aux États-Unis, je peux te dire que les mecs, ils sont encore en train de se demander s'ils étaient blessés ou non.
Ah bah, Cutler, tu vois bien.
Ah,
Donc,
tu le
tu
vois bien, tu regardes sur les forums américains, il y a des mecs qui disent que non, c'est rien du tout, ça va se remettre.
Après, sur un Kai Green, comme tu montres dans ta vidéo, là, sur ton site, c'est moins flagrant. Là, faut vraiment,
Moins flagrant parce que j'ai pas les photos qu'il faut. Là où on le voyait vachement, c'est quand ça venait d'arriver. Les photos étaient sur Muscular Development, mais ils ont retiré. C'est quand ils venaient de passer pro, ça se voit beaucoup là.
Justement, il y a Brands il a pas fait Olympia, il s'est niqué, c'est ça?
Ouais, enfin il s'est écroulé sous son poids en fait.
Comment il s'est écroulé sous son poids?
Un peu comme les éléphants où il y a des vaches comme ça, ils ont tellement fait grossir les vaches que elles se cassent les pattes arrière tellement elles sont lourdes. Mais non, mais tu fais un faux pas. Imagine, tu prends un sac à dos de 30 kilos, puis tu fais un faux pas, tu vas voir que c'est la catastrophe, hein.
C'est comme ça qu'il s'est niqué, c'est en marchant.
En glissant, ouais.
Ah bah Lyon.
Il y en a un qui s'était niqué pareil, c'était At Hartwood.
Pareil le quad, il s'était niqué?
Ouais.
Ah, t'as tout, t'es pas celui qui est mort là?
Si, mais il s'était niqué le quad comme ça, un faux pas, et puis tu t'écroules sous ton poids, quoi.
Ouais, c'est dingue quand même de s'arracher comme ça, hein, sous ton poids.
Et non, je te dis, mets un sac de 30 kilos, tu fais un faux pas, tu vas voir ce qui se passe.
Bah je sais pas, pour moi ça tient.
Ben non, ça tiendra pas, hein.
Ah mais
Si,
attends,
tu
ça veut dire que c'est vachement fragile.
Ben non, tu t'écroules sous ton poids, et ben non, c'est pas spécialement fragile, mais tout d'un coup, t'as un poids gigantesque en porte-à-faux. Donc, ben voilà. C'est pour ça que quand je vois Cutler qui saute de scène jusqu'en bas, je me dis, mais il est fou, le mec, quoi.
Attends, on voit plein de sportifs, des mecs par exemple dans les NFL qui sautent
Mais
partout.
attends, les mecs, ils leur mettent 50 kilos dans la vue.
À 50 kilos, c'est toi qui le dis, hein?
C'est à peu près ça.
J'en ai les mecs NFL, toi, ils font un 90, 110, 120 kilos, quoi, les mecs, quand même.
Les mecs en NFL, ils sont toujours blessés, je te signale.
Ouais, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui tiennent aussi. Donc là, on pourrait dire que les meilleurs tiennent quand même en body.
Ils sont tous aux antidouleurs.
Et justement, ça me rappelle, donc ça me fait parler de Milos, là, on l'a vu, bah justement, ouais, si, tu l'as vu, la photo, c'est quand il est dans je sais plus quel pays, les cheveux tout blancs, la gueule, j'ai
Non, mais
l'impression qu'il a pris 10 ans.
je crois qu'il a fui les États-Unis, d'après ce que je comprends.
Il était pris dans un trafic, non? C'était ça l'histoire?
Bah, je sais pas. Non, mais ça, il y a longtemps. Non, mais il a fait une espèce de faillite et puis les autres ont porté plainte. Tu sais, ses anciens partenaires
De la salle, là?
de ouais, ont dû porter plainte contre lui. Il avait plus le droit d'aller à la salle. Il y a été. Il s'est fait arrêter une fois. Il y est retourné. Il s'est fait arrêter deux fois. Donc aux États-Unis, alors je sais pas où ça en est exactement, mais trois arrestations, ça devient pas bon du tout là-bas. Donc il s'est barré, quoi. Donc il est
Ouais.
en Suède ou en Norvège, un truc comme ça.
Attends, on a vu sa gueule, il fait peur, hein. Là, le mec, c'est rare qu'on voit des pros vieillir et tout comme ça, mais lui, d'un coup, il a pris 10 ans, quoi.
Ah non, parce que tu l'avais pas vu, un, tu l'as pas vu depuis longtemps, puis deux, il a eu, je sais pas si tu te souviens, il a eu un accident en faisant une cascade.
Ouais, c'est vrai, je me souviens.
Il a été brûlé vif. Hein.
Donc pour enchaîner là, quels sont les entraîneurs à l'heure actuelle, chez les pros qui te semblent compétents?
Je sais pas, faut remonter un peu l'historique de ce qu'on appelle un entraîneur ou un préparateur. Historiquement, non mais historiquement dans les années 80, c'était tous les mecs qui revendaient les anabos, qui entre guillemets préparaient les mecs. Ce qui est un peu logique parce que quand le mec il va acheter des anabos à un mec et qu'il y connaît pas trop, à qui tu demandes des conseils, ben tu demandes des conseils au mec qui te l'a revendu. T'espères que c'est un peu comme chez tu vas chez Darty. Tu demandes conseil au vendeur, quoi. Donc bah, c'est parti de là. En gros, les mecs qui refourguaient les anabos, tout d'un coup, ils se sont dit, bah,
Faut préparer le mec, quoi.
non, mais je peux faire augmenter mes bénéfices en faisant plus que de lui revendre des trucs, en lui vendant des conseils et de préparation Pareil, imagine le mec qui n'en a jamais pris. Donc il se dit, ouais, mais alors comment faut que je m'entraîne un peu différemment? Alors l'autre il lui explique, là, tu t'entraînes un peu plus, tu fais ci, tu fais ça, puis attention, tu manges pas ça, tu manges des hydrates, tu vas gonfler comme un ballon, etc. quoi. Donc bah, le mec il a de plus en plus de contacts avec tous ceux qui en prennent, donc il fait des constatations, faut pas faire ci, faut pas faire ça, donc il donne des conseils. Mais enfin, c'est pas parce que le mec il revend des anabos qu'il est forcément le plus finaud de la bande, quoi.
Je veux dire que les mecs comme Shane Nichols, Aceto et tout, c'est des anciens dealers?
Bah, Aceto, non, lui, il a un parcours un tout petit peu plus... Mais je parle de Dan Duquesne et compagnie, puis après, il a fait des émules. Mais tous les autres ont pris des anabos, et puis ils sont partis de là. Hein. Je crois que le seul, effectivement, qui a fait des études, c'est Aceto. Et puis après, Aceto, il a été au... Comment? Védère, moi, je voulais y aller quand j'étais jeune, mais... C'est vrai, ça n'existe plus, mais ça faisait rêver à l'époque. Ils faisaient des universités d'été pendant une semaine. Tu te pointais dans une université aux États-Unis, puis il y avait plein de champions. Tu t'entraînais avec eux. On voit d'ailleurs une vidéo que j'avais de Tom Platz comme ça.
Ouais, je me souviens plus, si tu l'as mis.
On le voit faire des dips. Il est sur un banc, etc. C'était pris à cette université là, donc assez tôt, il a fait ses premières armes là, puis après il a écrit dans Muscle and Fitness. Mais je sais pas si tu l'écoutes toutes les semaines sur Eric's Muscle, mais il vaut pas un clou assez tôt.
Non, j'écoute pas, il raconte que des
Oh la
conneries.
vache. Ah la vache. Et à chaque fois il se fait quand même moucher par Palumbo, c'est gravos quoi, ses connaissances. Tu vois, il s'est arrêté dans les années 70. En nutrition, etc. Alors après c'est différent, toi, parce que le nutritionniste, bon, il faut qu'il ait de bonnes connaissances, mais faut qu'il ait un œil. Alors peut-être que assez tôt il a un bon œil pour voir comment le mec il évolue, quoi. À partir du moment où le mec il commence à perdre trop de muscle, il lui dit de remanger, etc. quoi. Donc et puis bon, bah Charles Glass, je pense que il a commencé avec les produits pour les autres, et puis après ça, il a développé, il s'est aperçu que ça sert à rien de se faire arrêter, je me demande s'il n'a pas été arrêté d'ailleurs à l'époque, et puis après il s'est dit que c'était moins risqué de faire personal trainer que...
Et donc en fait, tu veux dire qu'il n'y a que lui qui est entraîneur, quoi.
Bah étant il est entraîneur de mes deux quand même, hein. Tu vois les mecs, il va leur développer des pathologies gravos, hein.
Ouais, bah, je vois bien quand on regardait les DVD Muscle Time à l'époque qu'il leur faisait tous le même entraînement, mais...
Ben ouais, non, c'est pas Muscle Time, c'était les comment Bataille pour l'Olympia, ouais.
Si, aussi les Muscle Time quand il faudrait comparer Vito Donny James après Gunther, même entraînement pec, quoi.
Ouais, voilà, bah Gunther c'était sur c'était Gunther, le deuxième qui était entraîné pareil. Ouais, c'était ouais, c'est vrai, il y avait une Muscle Time et puis l'autre, non, c'était pas Bataille pour l'Olympia, ouais.
Tu vois, le mec, après, je sais plus qui l'entraînait dans un pareil, dans un Muscle Time, c'est la même
Ouais,
chose.
ils entraînaient quasiment le même truc, le même entraînement, ouais.
Ouais, il se faisait pas chier, le mec.
Même technique, même tout,
Y
ouais.
a qui comme entraîneur, alors? Chez les pros.
Enfin, je sais pas si le mec qui Cutler avait dit que c'était un entraîneur, c'était celui qui l'entraîne, comment il s'appelle?
Rambo, là?
Ouais, Rambod. Il a dit qu'il avait vachement travaillé avec Phil East sur l'entraînement, alors que lui n'avait pas travaillé avec l'entraînement.
Attends, Rambo, là, c'est le mec qui dit de faire du FST, là.
Ouais.
Un truc à la con, là.
Il y a lui comme entraîneur.
Non, mais le FST, là, c'est le truc où tu fais, genre, je sais plus, 6 ou 7 séries avec 30 secondes de récup, quoi.
Pour finir, ouais.
Ouais.
Bon, c'est pas plus bête qu'autre chose, hein, mais
Non, mais bon, tu peux pas...
j'aime bien pour une fois que Cutler était franc. En gros, il disait qu'il s'était très peu entraîné suivant la méthode Rambod, alors que dans les vidéos, etc., il disait qu'il suivait sa méthode. Et je sais pas si t'avais eu le scandale avec Eric Delorio.
Ah non, j'avais pas vu.
Si, parce que Eric Delorio, il avait été interviewé et le titre de l'interview, c'était l'entraîneur de Cutler. Et ça a fait scandale parce que je suis sûr que l'autre, il a un méga contrat avec Rambod et il pouvait pas laisser dire qu'un autre l'entraînait, quoi.
Parce que à la base, c'est ton mec là qui entraîne Cutler?
Et Lorio, bah c'est le Canadien, ouais.
C'est pas son pote qui s'entraîne avec lui dans les DVD, ça?
Si, mais c'est un mec, il est entraîneur en, comment, je crois qu'il est entraîneur au Gold Gym, le mec. On le voit souvent.
Ouais, bah c'est ça.
Je me demande s'il n'est pas avec Yamagishi aussi.
Ce mec-là, je crois que j'ai croisé quand j'y étais à...
C'est possible, les mecs ils sont là-bas en permanence, c'est leur métier de faire personal trainer. Donc, sous le couvert de personal trainer, il y a aussi des gros business et des accords entre les mecs dont on n'a pas idée. Je sais pas quel est l'accord avec entre Rambod
Les
et
Cutler.
Cutler.
Oh, donc au final, la question, quel est le meilleur entraîneur du moment chez les pros? Il y en a pas, c'est ça?
Ben, je sais pas, non, mais il doit bien y avoir des mecs un peu finaux, mais le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui paraît de donner des résultats très vite, c'est aussi le mec qui va faire que ta carrière elle va durer parce que tu vas pas te développer des pathologies à la con, quoi. Regarde Cutler, bah là il est en train d'être arrêté par une blessure.
Ah, ça fait un moment qu'il est arrêté par sa
Ouais,
blessure.
non mais là ça va lui déstabiliser l'épaule et c'est le début de la fin, quoi.
Ah, de toute façon, il était en bout de course, Cutler, là.
Ah ouais, mais il aurait pu gagner là, s'il avait pas eu cette histoire de biceps, je pense qu'il aurait pu gagner quand même.
Vrai que Cutler, en fait, quand tu le vois tout seul sur scène, hein, je reviens là-dessus, parce que tu le vois arriver, tu dis, ouais, bon, il est pas très en forme, quoi. Puis tu mets à côté des autres, au final, il est plutôt
Ah
bon,
ouais.
quoi.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se plante tout, enfin, il perd beaucoup dans la dernière semaine, parce que je sais pas si t'as vu la photo
Ouais, il
où.
était super, quoi, la taille fine et tout.
Non, mais ouais, t'as vu cette photo dans les vestiaires là?
Ouais, il était, attends, tu vois là-dessus, tu dis, bon, bah, il a gagné d'avance, quoi. Les épaules striées, la taille bien rentrée, les abdos et tout.
Il a des gros pecs, alors que tu le vois toujours arriver sur scène, il n'y a plus de pecs.
Bah, ouais, sur la photo, il était top, quoi. Mais j'ai comme l'impression que les mecs, même pareil, tu voyais, il y a Freeman qui avait foutu une photo là, juste avant. Les mecs, quand ils font leurs photos dans leur salle, ou dans leur chambre et tout, ils sont mieux que sur scène, quoi.
Ouais, non, mais parce qu'ils n'ont pas encore séché tout ce qu'il faut.
Ouais, mais il paraît déjà vachement sec, quoi, aussi.
Mais ouais, d'accord, mais les dernières semaines, ils perdent beaucoup, et Cutler, c'est flagrant qu'il perd énormément la dernière semaine, quoi, pour être sec.
Ah, pour être sec, peut-être même pas plus sec que sur la photo, quoi.
Je sais pas, je sais pas. Si on les voyait comme ça sur scène, on se dirait, mais il a même pas fait son régime, ça se trouve. Non, mais faut se méfier.
C'est vrai que l'éclairage sur scène est vachement très.
Ouais, non, mais faut se méfier Je te dis, faut se méfier des photos, quoi. T'as l'impression que le mec il est super, et puis bah celui qui était le spécialiste est Dennis James.
Ah ouais, bah c'est vrai que...
Voyais avant et tu te disais, mais ce mec-là il va éclater tout le monde, quoi.
Puis il est arrivé, tu disais, bah merde, il a
Est-ce
tout paumé.
où il a mis ses muscles?
Ouais, quand même pas.
Non, mais c'est pas facile.
Donc...
Les dernières semaines, c'est pour ça les mecs des fois ils sont vachement mieux le lendemain.
Donc pour en revenir à la question, quel entraîneur te semble le plus compétent?
Je sais pas.
Il n'y en a pas.
Non, mais
De connu, quoi.
je les connais pas tous, les mecs. Il y en a.
Mais dans les plus connus, il n'y en a aucun que tu juges.
Bah, je sais pas. Non, mais j'avais déjà dit, un bon entraîneur, c'est celui qui fait que le mec il s'entraîne. Là où Charles Glass, il était fort, c'est que des mecs comme Flex Wheeler, qui avaient du mal à venir s'entraîner, il les faisait s'entraîner tous les jours, quoi. Ça, c'est le premier pas d'un bon entraîneur. Le mec qui motive le champion pour qu'il s'entraîne alors qu'il est crevé et qu'il n'aurait pas envie de s'entraîner, etc. C'est déjà c'est ça le bon entraîneur, j'allais dire.
Mais ouais, comme il n'y a pas de star de ceux qu'on connaît, quoi, qui est bon entraîneur, quoi, en gros.
Après, je sais pas ce que je te dis. Moi, pour moi, un bon entraîneur, c'est le mec qui fait que le mec il vient s'entraîner. C'est ça le. Parce que si le mec, il t'as beau être le meilleur entraîneur du monde, si le mec il veut pas s'entraîner avec toi, je te dis, Charles Glass, avec tous les mecs qui ont du mal à s'entraîner, ils viennent quand même, quoi. C'est ça qui est un bon entraîneur.
Donc, pour l'instant, on a que Charles Glass, les autres, c'est tous des dealers.
Non, mais regarde tous les mecs qui font confiance à comment. Celui de New York là, je sais même plus le nom.
Vine derrière?
Non, mais non.
L'autre de New
Merde.
York. Si, il appelle l'autre de New York, là.
Celui qui fait Brench et compagnie. Merde, comment.
Ah,
Celui qui s'est tiré dessus.
Je les appelle. Bah, dis-moi ceux qu'il a préparé avant.
Je te dis, c'est lui qui fait Brench, c'est lui qui a fait Kai Greene cette année.
Ça me parle pas, je ne localise pas les mecs.
Non, Georges, c'est Georges quelque chose. C'est pas Foreman, mais c'est...
Alors si je clique,
c'est le champion, là, on en parlait l'autre jour.
Georges...
Farah, Georges Farah.
Ah, Farah, ah ouais, l'autre pourri, là.
Bah, l'autre pourri, je trouve qu'il est bien pour ce qui lui est arrivé, quoi.
Ah, il était rempli de syndrome dans les biceps, le mec.
Ouais, mais il aurait dû être coupé en deux au niveau du tronc.
Ouais, hein. non, mais c'est bien qu'il soit revenu et tout, mais bon, le mec, il vient sur scène, déjà, il charnait quand même bien, et en plus, il fout du synthol.
Bah, ouais.
Et en plus, il avait des moyens de pression contre les juges pour avoir des bons classements, le mec. Ouais, non, c'était pas...
Il arrive à faire que... arrive à envoyer des mecs en forme, quand même... Il y en a d'autres, Moubarak aussi. Ah mais il y en a plein des mecs qui. Mais les mecs se spécialisent plus dans la diète que dans l'entraînement, quoi. Dans l'entraînement, c'est pas juste. L'entraînement, c'est. Alors évidemment, tu peux constater par rapport à ton entraînement, etc. Mais les mecs n'ont pas étudié l'anatomie et la kinésiologie, quoi. Et la plupart du temps, ils vont développer des pathologies aux mecs, et les autres vont pas savoir, vont pas faire la relation, donc ils vont pas les mettre en cause, mais c'est marrant, comme j'avais dit l'autre jour, je sais pas si on en a parlé de la mort d'Atoul ou?
Non. Bah non, comme c'est récent, on en avait pas parlé encore.
Donc, parce que quand je l'avais vu, à Paris, c'était le premier qui me disait qu'il s'était, enfin, pour moi, c'était nouveau, mais alors, ça fait, le salon, c'était encore à Vincennes.
Ouais, donc, c'était un 2004 ou 2005.
Ouais, donc, c'était pas, alors j'allais dire il y a 10 ans, non il y a quand même pas, mais il y a presque 10 ans, donc je lui avais dit, mais parce qu'à l'époque, pour remonter en arrière, donc Atwood, il était préparé par Chad Nichols, il avait gagné, il était passé pro grâce à Chad, enfin grâce entre guillemets, sous les conseils de Chad Nichols, et après, je sais pas si tu te souviens, j'étais incapable de retrouver ses photos, il avait fait des photos avant-après, il était devenu énorme.
Ouais, bah je me souviens qu'il était énorme.
On voyait son canapé dans le fond. J'étais incapable de retrouver ses photos. Il avait explosé, il avait gagné son premier concours pro.
Ouais, je me souviens qu'il avait gagné, je sais plus, c'est pas le New York Pro ou un truc du genre.
Non, c'est au Canada, je crois. De mémoire, c'était...
Le Toronto, alors.
Ouais, c'était un grand prix comme ça. Et il avait gagné, donc on s'est dit, oh la vache, ça va être le nouveau... Yates. À l'époque.
Ouais, je me souviens, c'est ce qu'on disait. On disait, ouais, il s'entraîne dur et tout.
Ouais, non, mais même, je veux dire, l'évolution qu'il avait eue en quelques mois, entre guillemets, grâce à Chad Nichols, on s'était dit, mais... Et puis, donc, je parle avec lui, puis il me dit, je m'entraîne plus avec Chad Nichols. Enfin, ou je sais pas où je le savais, qu'il s'entraînait plus avec Chad Nichols. Enfin, je lui ai posé la question, mais c'est quand même bizarre, pourquoi tu t'entraînes plus avec Chad Nichols? Ben, il me dit, Chad Nichols, tu l'appelles, il répond jamais, impossible de le contacter. Ah bon, mais alors et c'est là qu'il m'avait dit comment je m'entraîne avec Farah. Donc bah bon, et puis il me dit Farah, il en sait au moins autant que Chad Nichols. Donc cette histoire de préparateur, c'est comme Palumbo, comme il parle beaucoup. Pareil, il a un podcast toutes les semaines. Enfin, il en a même deux, donc il parle beaucoup. Et puis, il y avait une question une fois, c'est alors, Freeman, il en est où, puisque c'est toi qui le prépare? Et Palumbo, il a dit, je sais pas si je le prépare, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de ses nouvelles. Donc, tu vois, c'est ça, un tel te prépare, tu sais jamais dans quelle mesure...
C'est marrant que les mecs sont pas assez sérieux, c'est pas, c'est bizarre.
Bah non, mais comment, ils savaient même pas s'ils préparaient, parce que les mecs... Ils vont voir un mec, ils vont voir un autre, ils vont voir un tel, ils vont voir un autre, etc. C'est ça, préparateur, c'est pour ça. Après, celui qui récupère les lauriers du préparateur, parce que comment, Chad Nichols, c'est quand même celui qui a flingué le plus de monde. Hein. Je sais pas si on en avait parlé une fois.
Ouais, si, on en avait déjà parlé.
Parce qu'il est arrivé à des mecs super en forme, c'était comment, c'était Coleman en 2001, c'est ça, Coleman en 2001. À l'Arnold, il avait la forme de sa vie, et puis après il a mis 2 ans à se remettre de sa préparation quand même.
Ouais, mais regarde, tu me dis Kai Green, c'est la même chose là, il est en super forme et après il met 2 ans aussi. Hein.
Bah non, mais avec l'autre là, je crois qu'il est pas très bon, le papy. Pareil, pourquoi il est préparateur? C'est parce que c'est son copain, hein, le vieux. c'est un mec qui traînait dans les dans la même salle que Kai Greene et ils se sont rencontrés très jeunes et puis ils sont
c'est le petit gros là.
Oscar Harden.
Ouais, tu dis le vieux, il est pas aussi, il a pas l'air si vieux, c'est un petit gros.
Il m'a l'air vieux, mais c'est pour ça, c'est Kai Greene qui l'a mis sur orbite, mais en fait le mec il l'a surtout flingué dans sur ses préparations que plus que aidé.
Mais bon, mais...
Donc ça l'a mis sur orbite. Pour en venir à Shane Nichols, il a flingué pas mal de monde, et donc à Hartwood, donc il a explosé d'un coup, puis après il est devenu tout pourri, mais et Nasser, il a fait ça pareil, il a explosé, puis après il est devenu tout pourri, King Kamali, on en avait parlé déjà, il a explosé, puis après il est devenu tout pourri, Coleman, ça a failli lui arriver, il a mis 2 ans, et Coleman, il doit être solide, hein, le bonhomme. Il a mis 2 ans à s'en remettre, hein, d'une préparation avec Shane Nichols. Donc, c'est, faut voir ça aussi. Hein.
Signé avec Shane Nichols et prévoyez 2 ans de repos.
Et attends, là, c'est pour ça que t'entends de moins en moins de mecs qui font Shane Nichols aussi. Enfin, lui, il veut passer à autre chose, mais les préparateurs sont pas forcément très doux. Hein. C'est pour ça que les mecs en changent. Mais Palumbo, il est censé préparer 200 mecs par an, en moyenne.
200 mecs?
Ouais. Donc je parlais avec un mec au salon qui était entre guillemets suivi par évidemment je crois qu'il avait payé 400$ ou un truc comme ça. Il envoie sa photo puis l'autre il lui renvoie un message bah c'est bien continue quoi. C'est ce niveau-là.
Ah, ça vaut le coup dis donc.
Bah pour 400 ouais le mec était pas content.
Ah, tu m'étonnes, hein, si il paye 400$ au moins le mec
Ouais mais 400$ c'est rien du tout, tu peux pas.
Pourquoi c'est pour l'année?
Non, mais ça devait être pour une prépa de 2 mois ou un truc comme ça. Tu peux pas espérer que le mec il passe des heures et des heures sur toi, puis 200 mecs, il est fait à la chaîne, quoi.
Mais ça fait quoi, 200 mecs à 400$, le mec?
Ouais, bah...
80 000.
Comment... Ouais, parce qu'il me disait que... Comment... Alors, le mec, il était un peu inquiet sur... il disait qu'il allait pas être en forme. Alors, il envoie ça, le message à Palumbo, puis il dit, la réponse, c'est, si toi t'es inquiet, moi aussi je suis inquiet. il était pas content, mais le mec, il peut pas faire 200 personnes comme ça, il passait des heures, plus s'occuper de son site, plus machin.
Donc, mais pour... dans ce cas, il prend moins de monde.
Bah attends, il faut moins de monde, tu peux pas, les mecs, ils vont pas dépenser des 1000 et des 100 pour, parce qu'il disait là, il y a un mec qui est devenu pro, qui sponsorise et qui prépare. Tu sais, le mec qui a gagné l'overall au Nord-Amérique.
Ouais, j'ai pas suivi.
Je sais plus qui c'est, qui est pas mal d'ailleurs. Et Palumbo disait, alors il y a un mec qui dit, t'as dû gagner de l'argent. Il dit, non, il m'en a coûté parce que je vais payer l'hôtel, je vais payer le voyage. Ah oui, parce que je te dis, il y a un business du préparateur, c'est ça que les gens voient pas. L'autre, c'est Juan Morel.
Ouais, je vois qui c'est.
Juan Morel, qui a gagné donc le Nord-Amérique catégorie qui passe pro. Ah oui, parce que, entre guillemets, le préparateur, pour lui, c'est prestigieux d'avoir un client comme ça qui passe pro, quoi. Ça lui en donne 20-30 derrière.
Ouais, c'est comme Charles Glass quand il entraînait un pro, ce qu'il avait derrière, quoi.
Ouais, je me demande qu'il les entraîne pas gratos. Et pour de la pub après pour récupérer des mecs de moindre niveau etc. Donc c'est le business du préparateur, les mecs n'ont aucune idée de tout ce qu'il y a. Tu te dis ah il le prépare et tout, mais un tu sais jamais si c'est lui qui le prépare ou pas, et puis deux il y a des business, je suis sûr que comme on disait entre Rambod et Cutler il y a des accords commerciaux dont t'as aucune idée, donc tout ce business c'est pas... Faut pas le prendre au pied de la lettre pour le mec en se disant « Ah, lui, c'est un super préparateur. »
Non.
Donc, méfiance vis-à-vis de ça.
Bon, bah, maintenant qu'on a bien abordé les pros, on va attaquer la partie entraînement de ce podcast. Donc, il y a une tonne de questions. Donc, première question. Est-ce qu'un entraînement de plus de 1h30 est trop long? Donc, tu sais, il y avait toujours le débat de dire « Quand c'est trop long, le taux de testo diminue, blablabla. »
Mais j'avais dit que là, c'est bidon, l'histoire du coup. Je sais pas si je l'ai mis dans la méthode de la vie 2, mais...
Ah, je sais plus, mais... Donc, un mec qui demande s'il y a des nouvelles études, ou...
Il y avait cette étude que j'aime bien, hein, par rapport à des sprinteurs, Bon, c'est, le sprint, ça s'apparente beaucoup à la musculation parce que c'est très violent sur une période de moins de 45 secondes. Donc, c'est la durée d'une série. Et cette étude, elle est bien parce qu'ils ont pris deux types de sprinteurs, des débutants, enfin, pas des débutants purs, mais des jeunes sprinteurs et des sprinteurs chevronnés. Donc, ils ont fait courir 45 secondes. Et en 45 secondes, chez les jeunes, ça leur a lancé les couilles, donc ils se sont mis à produire de la testo. Chez les plus, enfin chez l'élite, ils ont pareil 45 secondes, ils ont fait un sprint 45 secondes, ça leur a lancé les couilles, mais leur taux de testo n'a pas bougé. Et je me demande s'ils n'étaient pas descendus d'ailleurs.
Ouais, je crois qu'ils étaient descendus, je crois que tu l'avais mis dans le monde du muscle ce truc-là.
Ouais. Donc c'est une étude assez intéressante pour montrer que cette histoire de déjà en moins d'une minute tu peux avoir ton taux de testostérone qui monte ou qui descend suivant ton niveau d'entraînement. Donc après que ce soit une heure ou deux heures, si en 45 secondes, faut pas juger la durée de son entraînement trop par rapport à la sécrétion de testostérone.
Ah donc j'en profite pour rebondir, tu juges par rapport à quoi alors?
Non, mais déjà, si t'es crevé, puis si tu récupères du truc, quoi. Ça sert à rien de t'entraîner deux heures si après t'es crevé pendant.
Ouais, c'est vrai que souvent tu es dans les bouquins, les conneries, là.
Ouais, les bouquins.
On retrouve toujours les trucs dans les magazines. Ah, ceci augmente le taux de GH, donc c'est super. Ceci augmente le taux de testo, c'est super. Et tu vois, ils nous prennent un facteur à la con, un truc individuel, pour nous dire, ah, ça c'est super, faut essayer, quoi.
Surtout la GH, hein, faut s'en méfier comme la peste.
Bah là, la testo aussi, là, de ce que tu nous dis aussi.
Ouais, non mais...
En fait, toutes les hormones prises individuellement, en fait, c'est de la connerie, quoi.
Ouais, non mais les hormones, le problème des hormones, c'est que la moitié de la question, parce qu'il faut voir la réceptivité de ces hormones. Si t'arrives à faire monter, ce qui est le plus important, plus que le niveau de testostérone, c'est la densité des récepteurs sur tes muscles. Donc, même si ton taux de testostérone, il descend un peu, mais si t'arrives à augmenter le nombre de récepteurs de testostérone sur tes muscles, c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais, mais bon, là-dessus, il y a aucun, c'est pas par l'entraînement ou...
Ah si, je parle
entraînement. Ouais, mais je veux dire, on a aucun moyen d'accentuer ça, quoi.
Ah, on connaît pas encore, mais il y en a sûrement aussi.
Par l'entraînement, tu crois?
Ah bah, bien sûr. Bien sûr, par l'entraînement. J'ai fait toute une série d'articles là-dessus.
Ouais, je me souviens de l'article sur l'autophosphorylation.
Ouais, aussi, parce que visiblement, ils arrivent à s'auto-activer tout seul, un peu comme les récepteurs d'insuline.
Donc sans testo, quoi. Donc c'est la question du spécialiste.
Ben ouais, non mais après, là, ça devient... on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais c'est des trucs qui doivent être possibles. Donc c'est pour ça. Puis pareil, la GH, faut se méfier. Les gens sont encore avec les vieilles notions. La GH, c'est super. Mais la GH, c'est facile de la faire monter, il faut que t'arrêtes de manger. Et si la GH est anabolisante, t'arrêtes de manger, tu vas devenir énorme. Bah, les mecs, ils se sont pas dit que dans le raisonnement, il y avait un truc qui allait pas. Bah non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas une GH, il y a plein de types de GH.
Ouais, c'est la GH. Il y a plusieurs sécrétions, quoi. Ça peut être local ou général, quoi.
Ça peut être local et général, mais c'est surtout que la GH qui est... Comment qui sort en cas d'hypoglycémie, c'est une hormone de contre-régulation, c'est une hormone catabolisante, c'est ça que les gens ils comprennent pas. Ça dépasse leur capacité intellectuelle.
Est-ce que pour chaque hormone, justement, t'as plusieurs...
Pour l'IGF-1, bon, maintenant, les gens sont assez bien au courant que le mieux c'est l'IGF-1 qui est dans les muscles, plus que l'IGF-1 qui est fabriqué par le foie, mais la GH c'est pareil. La GH qui circule dans le sang, en général, elle est catabolisante, donc catabolisante pour le gras, ça c'est bien, mais quand tu fais une hypoglycémie, elle est catabolisante pour tes muscles. Par contre, la GH qui est produite dans les muscles est nettement plus intéressante. Et celle-là, c'est pas en mangeant moins qu'elle est sécrétée.
Donc, par exemple, on peut dire qu'il y a plusieurs testos aussi?
Non, à part la DHT, mais... parce que dans les muscles au moins des animaux, c'est beaucoup plus anabolisant. Pour les hommes, ça reste à...
Ça reste pour perdre des cheveux, hein, c'est ça?
Entre autres, mais bon. De plus en plus, ils disent qu'il y aura peut-être des bénéfices à la DHT quand même.
Alors qu'on essaye de nous vendre des anti-DHT.
Non, mais le problème, c'est que la DHT, elle a un rôle double. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de jouer sur les récepteurs que la testostérone elle-même, quoi.
Ouais, pour l'instant, sur les récepteurs, c'est, comme tu dis, c'est en découverte, quoi.
En découverte. Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus.
Ouais, donc ça va pas avancer.
Non, malheureusement.
Donc la conclusion à tirer, donc là pour l'entraînement d'une heure et demie, en fait, c'est voir comment on se sent et si on récupère.
Non, faut pas juger sur des sécrétions hormonales.
Et donc pareil, quand vous lisez un article à la con qui parle que d'une hormone, hein.
Faut se méfier, faut se dire que le mec, il a une connaissance qui date des années 80, quoi.
Faut surtout pas le lire, quoi.
Faut pas le lire, non, mais faut le lire avec.
Avec des yeux de rêveur.
Faut faire attention à tous ces mecs-là qui sont. Qu'ont pas des connaissances. Mais les mecs, ils se rendent pas compte du business de l'écrivain. Le business de l'écrivain, c'est quoi? C'est le mec, tous les mois, faut qu'il écrive, 5000 signes ou 10 000 signes. Le mec, faut qu'il y arrive coûte que coûte. Donc, souvent, c'est des banalités. Le mec ne fait aucune recherche parce que c'est plus rapide d'écrire un article sans faire de recherche, etc. Muscular Development, par exemple, il y a un mec qui l'écrit, en gros, pour tous les mecs qui écrivent les articles de pro, les articles d'entraînement, c'est Ron Harris. Et le mec, pareil, il a des connaissances qui datent des années 80, le mec.
Mais en même temps, faut dire que c'est dur de se mettre à la page avec ce qui sort, quoi.
Ah ouais, mais faut regarder en permanence les trucs qui sortent, faut s'intéresser. Puis attends, la plupart des mecs qu'on fait muscu, c'est pas des intellectuels, hein, malheureusement. Les mecs, ils ont pas traîné à l'université, ils ont pas la mentalité de faire des recherches. Les mecs répètent ce qu'ils ont entendu. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a une connerie, celle-là, elle est répétée à non plus finir.
Là, justement, j'ai lu un livre, et donc j'ai retrouvé toutes les conneries du BE avec l'hypertrophie sarcoplasmique et toutes les saloperies. Hein. Donc j'étais très heureux de retrouver ça.
Ouais, mais...
Avec les séries de 15 pour l'hypertrophie sarcoplasmique et les séries de 6 pour l'hypertrophie des sarcomères.
Le truc le plus flagrant, c'est les blessures aux États-Unis. Les mecs, ils n'ont aucune... ils sont incapables de voir si les mecs sont blessés ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça tout ce débat autour de Cutler, alors que c'est hyper simple, quoi.
Ouais, non, Cutler, ça se voit bien, quand même.
Ça se voit bien, t'as qu'à regarder sur les forums aux États-Unis, il y a un débat terrible pour savoir s'il est blessé, si les mecs ils disent qu'il est blessé au biceps, alors ce qui est pas tout à fait exact, parce que le chef court, il est parfaitement intact, etc., quoi. Donc, une blessure du haut du chef long du biceps, c'est trop avancé pour la plupart des préparateurs, même pas Lumbo, je l'ai entendu me dire des conneries, mais tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. À propos juste de ça, quoi.
Ah, en même temps, faut le voir que c'est le chef long. Tu vois qu'il a un problème de biceps après.
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Si t'as étudié la question pendant 5 minutes, tu le vois tout de suite.
Quoi. Ah ouais, faut regarder pendant 5 minutes la photo aussi.
Non, faut avoir étudié la question.
Faut bien regarder la photo aussi, c'est ça le truc.
La photo, ça c'est tu le vois tout de suite. Non, mais faut connaître un peu les pathologies de. Les pathologies des culturaux, quoi. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui l'ont étudié. T'as pas vu cette vidéo où il y a Farnworth, il fait des massages.
Ouais, à Cutler, là.
Tu l'as vu, t'as le grand rond qui est un peu raide. Et il lui appuie sur l'épaule, mais je me dis, mais il est fou, le mec, quoi. Il lui appuie sur l'épaule et tout. Alors, évidemment, sur le coup, ça te rend de la mobilité, hein, un con qui t'appuie comme ça, mais alors c'est bon en rien du tout, quoi.
Pourquoi c'est bon en rien du tout? Justement, s'il a plus de mobilité, après, c'est comme un massage, quoi.
Quand t'as mal à une épaule et que, tu perds de la mobilité, tu t'amuses pas, c'est qu'il y a une raison. Tu t'amuses pas à appuyer comme un fou dessus pour jusqu'à ce que... Évidemment que tu vas rattraper de la mobilité sur le court terme, et puis le lendemain, tu vas avoir un mal à l'épaule de chien. Et puis tu vas avoir encore moins de mobilité que t'en avais.
Bah, des fois ça fait du bien de se masser, tu sais, les trucs automassage. On t'a vu par exemple, fait un petit détour là. Par exemple, tu te masses la coiffe des rotateurs là avec ton boudin là.
C'était pas du massage qu'il a fait, le mec il appuyait pour. pour lui emmener l'épaule vers l'arrière alors qu'il avait le bras tendu. Mais c'est des trucs de fou, quoi.
Ouais, non, mais pour la petite parenthèse, on t'a vu te masser le.
Ouais, bah j'ai vu une vidéo, dans le prochain bouquin on en parle.
Donc c'est vrai qu'à l'époque, là, donc ça partait là, on voyait dans les vidéos de pro les mecs se faire masser tout le temps et tout.
Ouais, il faisait ça à un moment, ouais.
On voyait vachement. Et puis là, on a l'impression que maintenant c'est plus ancré dans.
Ouais, bah les mecs.
Pour tout le monde, quoi, de s'automasser après l'entraînement quand on n'a pas un masseur, de se rouler.
Ouais, bah non, mais je trouve que c'est pas mal comme technique, c'est pas cher, c'est.
C'est vrai que c'est vachement bien, j'en parlais dans un podcast aussi, je trouve que c'est vachement bien ces automassages.
Si, bah si, c'est bénéfique.
Donc t'en parles dans ton prochain livre.
Ouais, enfin pas celui qui sort là des bras, mais le prochain.
Donc le prochain qui est?
Ah, qui est, si les mecs, vous avez pas encore compris le sujet, vu les dessins qu'il fait Frédéric en ce moment.
Mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu les dessins.
Hein? Bah non, mais c'est comment, on peut le dire maintenant, normalement c'est pour janvier, c'est la musculation pour le fight.
Ok. Donc il y a dedans, ça va parler, donc en plus...
ça, alors pourquoi il y a ça là-dedans? C'est parce que, fallait bien que j'en parle un jour, donc... alors c'est pas que pour les fighters, hein, mais c'est... Le bouquin pourra bénéficier aussi à tout le monde. Hein.
Donc c'est en gros de la préparation physique du...
la muscu, non, c'est pas... On fait un peu le conditioning par la muscu, enfin grâce aux haltères, au poids et haltères, et puis surtout la musculation. Avec tous les trucs, en expliquant essentiellement qu'il faut pas appliquer le bodybuilding au sport.
Ok, donc ça c'est janvier. Et donc le prochain pour les bras doit bientôt sortir.
Normalement c'est la fin du mois pour les bras, donc à peu près le 15 octobre sur Amazon.
Ah bah j'ai vu sur Amazon que ça fait un mois qu'ils me montrent l'image.
C'est déjà pas mal.
Ouais, mais moi je crois qu'il était déjà en vente.
Non.
J'ai vu que non.
Ah non, parce que Vigo, c'était les vacances là.
Bon, alors on va revenir sur la question d'entraînement. Donc il y a un mec qui te demande quel est l'intérêt de l'entraînement classique où on travaille les grands muscles plus ou moins à part égale. Donc c'est-à-dire sans accentuer sur un muscle.
Bah c'est bien quand tu débutes parce que tu sais pas trop quels sont tes points forts, tes points faibles. Donc 10, 15, voire 20 séries sur les gros muscles, une dizaine sur les petits muscles, le truc un peu bateau, en attendant d'avoir plus d'informations sur comment va réagir ton corps, et puis voir la structure de tes points forts et de tes points faibles. Après c'est à partir de ça que tu modules ton entraînement.
Justement, il y a un mec encore qui a une question, c'est « Les cycles de force sont-ils intéressants dans une optique bodybuilding ?» Donc le mec, il parle de niveau avancé, débutant et compagnie.
Et non, ça c'est tous les trucs pareils. Comme je disais, faut pas que pour le fight, faut pas appliquer le bodybuilding au fight. Et pareil, appliquer des méthodes de sportif au bodybuilding. Le bodybuilding, c'est très simple. Le jour où t'as de la force, tu forces. Le jour où t'es un peu plus faible, tu t'entraînes plus léger. Mais tu peux pas prévoir à l'avenir à quelle séance tu vas être plus fort et quelle séance tu vas être moins fort. C'est complètement idiot.
Ouais, mais le mec... Bon, on prend le mec, en fait, il veut pas appliquer le truc du sport, il veut appliquer en gros le power sur un exercice sur le coucher et faire sa séance normale après, tu vois.
C'est ce que j'appelle le... Comment c'est ce que j'appelle le sport, le power. Que t'as besoin d'être pour une date très précise, t'as besoin d'être à ton plus fort.
Ouais, mais là le mec il veut faire genre un 5x5 sur le coucher et puis faire sa séance normale après, tu vois.
Ouais, non mais le jour, tu vas pas t'entraîner léger le jour où tu sens que tu vas être super fort, c'est complètement idiot. Et puis si c'est un jour lourd et tu sens que t'as pas beaucoup de force ou t'as été pris dans les embouteillages, t'es crevé, bah, tu vas pas faire super lourd ce jour-là. C'est ça les cycles de bodybuilding.
Ouais, mais là ce que tu me dis c'est des trucs que le mec qui est toujours dans les embouteillages, en fait t'es jamais fort, quoi.
Ah si, il y a des jours où quand même il va être plus fort que d'autres, il va se sentir, tu vois, il a bien dormi, il a bien mangé.
Ah mais donc, le mec mais c'est même pas des
jours où il a un peu mal à la tête. Attends, le mec un jour où il a un peu mal à la tête, un peu mal au coude, c'est son jour où il fait lourd. Faut être complètement débile pour faire lourd quand même. Les jours où c'est léger, tu te sens que t'as de la force, que tu vas pouvoir pousser à fond, tu vas pas te retenir. Non, faut arrêter d'être débile, les mecs.
Tu vas, c'est prévu. Imagine le mec qui s'entraîne 3 fois par semaine. Il a pas le choix. Il peut s'entraîner 3 fois par semaine. Tous les jours du coucher, tous les mardis, il est crevé. Comment il fait, le mec? Il fait que du léger sans arrêt, sans forcer?
Non, mais j'espère qu'il y a des jours où il est moins crevé que d'autres, quand même. Mais attends, le mec, tous les jours, il est crevé, et son cycle lourd, et ça va se passer comment? Faut qu'il revoie un peu son style de vie pour... pour arriver moins crevé à la salle.
Ah ouais, mais ça, c'est des trucs un peu inapplicables pour le mec qui bosse, quoi.
Si, c'est que si le mec, il est tout le temps crevé à l'entraînement, il va pas progresser du feu de Dieu, donc...
Mais il peut progresser un peu à son niveau, quoi.
Faut qu'il trouve des combines. Ouais, non, mais attends, le mec, il est crevé tout le temps, et il va faire un cycle lourd dessus. Il va se flinguer. C'est pour ça, faut mettre un peu de logique dans tout ça. Les jours où t'es fort, tu fais lourd. Les jours où t'es pas trop trop fort, c'est là que t'en profites pour faire léger. Mais tu prévois pas à l'avenir, 3 mois avant, le mec, il sait que le 15 août, il va être super fort. Ah non, mais c'est ça, un cycle de, c'est ça, les cycles lourds, légers. Alors ça marche quand t'as besoin d'être prêt au plus fort, par exemple, pour ta compétition, du 31 août. Ben là, évidemment, faut que tu mettes tout en œuvre pour que te préparer lentement pour monter graduellement en force. Mais pour bodybuilding, c'est absolument pas ça. Sauf pour les mecs qui préparent les concours.
Ouais, mais même sans parler de date, en fait. Ce mec, genre, il fait 100 kilos couché, il veut faire 120.
Ouais, et puis il va finir avec une pathologie d'épaule. Le mec, ce qu'il veut, c'est des pecs. Il veut pas 120 ou...
Ouais, mais bah, il veut des pecs, mec. C'est très bien, les mecs, ils veulent être fort au coucher, ils veulent des pecs, ils veulent être fort et des muscles, quoi.
Ouais, ouais. Puis après, bah, il a mal à l'épaule, et puis il s'aperçoit qu'il a fait le con. Donc, tu t'entraînes pour prendre des pecs, pas pour faire 120 au coucher. L'idéal, ce serait de faire 30 kilos au coucher. C'est comme ça, au moins, tu te blesserais pas.
Ah, mais c'est vrai.
Donc, du toujours plus lourd, ça sent la catastrophe qui arrive.
Ouais, mais tu dis des choses un peu inapplicables.
Ah non, bah si, c'est applicable.
Ouais, je dis ça parce que t'as 25 ans de training et que t'as plus, plus le truc de vouloir pousser, de vouloir prendre de la force et tout.
Tu te rends compte que vouloir pousser, ça t'amène à nulle part. Déjà, tu trouveras toujours des mecs qui sont plus forts que toi. Et puis, tu vas t'apercevoir rapidement que t'es pas indestructible. Et une fois que t'as mal, tu te traînes une pathologie.
Donc tu es contre les cycles de force, on retient.
Non, mais c'est complètement idiot, c'est illogique en bodybuilding, et c'est complètement idiot dans l'absolu.
Bon,
autant jouer au loto, si tu peux prévoir exactement ta force du 23 septembre, tu peux prévoir aussi les chiffres du loto de la semaine prochaine.
Ouais, mais non, mais tu peux prévoir à peu près. Genre, tu vois, on a un cycle sur le coucher, là, sur le site, par exemple. Le mec, il fait 5 fois... Genre, première séance, 5 fois 5 à 115. Deuxième séance, 5 fois 4 à 118. Bon, bah... Le mec, il suit le plan, quoi. Ça marche 99% des fois, quoi.
Bah non, moi, je dis, il faut moduler. C'est idiot de faire un cycle, et puis après, il fait un cycle léger, le mec.
Bah non, après, il reprend son entraînement normal avec ses séries de 8, 10, 12, quoi.
Et pourquoi le but de faire 5, c'est quoi? De gagner en force?
Bah ouais.
Et une fois qu'il a gagné en force, tu crois qu'il aura gagné des pecs?
Ah non.
En général, surtout si t'as du mal à prendre des pecs, c'est pas en t'entraînant toujours plus lourd que ça va solutionner ton problème.
Non, mais le mec est content d'avoir pris de la force.
Ouais, bah t'es content. Puis y a un mec à côté de toi, il fait 180, l'autre il fait 220. Il y en a un, il fait 300, et puis les meilleurs, ils sont à plus de 400, donc...
Ouais, mais c'est pour toi, t'es content d'avoir progressé.
Avec ta petite barre à 100 kilos, ouais, mais mieux vaudrait être content d'avoir pris du pec, quoi.
Imagine le mec, il fait du... Je revois le coucher, il fait du coucher à 80 kilos depuis un an, ça monte pas.
Bah, c'est qu'il y a un problème, quand même.
Ouais, mais voilà, le mec, il est tout le temps fatigué, il n'arrive pas à être il est pas en forme, il sent jamais qu'il a la niaque, il a 80 au coucher.
Ouais, non, mais c'est pas un cycle de force qui va lui sortir, faut qu'il arrive à s'entraîner dans de meilleures conditions. C'est pas un cycle de force qui va résoudre son problème.
Bah, la plupart du temps, le cycle marche.
Ouais, non, mais le cycle, le mec, il prend de la force, d'accord, mais ça t'a pas forcément donné plus de pec, ça t'a pas résoudre. Et puis à terme, tu vas te flinguer, donc...
Bah justement, la question suivante, c'est est-ce que les séances traumatisantes sont impératives pour développer un muscle ou est-ce que c'est infructueux de ne faire que du non traumatisant?
Non, après ça dépend de comment? Ça dépend de la génétique du mec, s'il grossit facilement. Non, mais de temps en temps, c'est bien de faire du traumatisant pour essayer de fabriquer des cellules satellites. Donc de temps en temps du traumatisant, quand tu te sens bien, tu peux y aller. Et puis les jours où t'es un peu fatigué, là tu fais un peu plus classique, quoi.
Mais tu peux rappeler ce que c'est les cellules satellites pour ceux qui...
Ah, c'est des cellules souches qui serviront de précurseurs pour réparer et pour fabriquer des nouvelles cellules musculaires.
Donc c'est des cellules souches, on en a une réserve illimitée?
Ben non, malheureusement. Après, c'est la génétique qui fait que. Mais en général, plus on a de cellules souches, plus le potentiel d'hypertrophie du muscle est élevé.
Voilà, ouais, on peut dire un peu que c'est ce qu'on appelle la génétique, à apprendre du muscle.
Bah oui et non, sachant que c'est quelque chose qui s'entraîne, les cellules souches. Bah, y a toujours des mecs qu'on ont plus que d'autres. Mais le potentiel de croissance est limité par la réserve de cellules souches. Je sais pas si c'est... Parce que il va falloir... C'est juste une question de... comment quasiment mathématique... pour pas reprendre, aller trop loin, dans un muscle, contrairement aux autres cellules, dans un muscle, il y a plein de noyaux. Alors que normalement, dans les cellules, il y en a qu'un. Et chaque noyau, c'est un peu comme un château au Moyen-Âge, il protège un certain domaine de champs, etc. Et il peut pas aller au-delà de son domaine. Donc, pour que le muscle grossisse, puisque une fois que t'as atteint le domaine du noyau, je sais plus si ça avait un nom un peu scientifique, ce domaine, et comment, pour que le muscle, tu vois, un noyau, il peut faire que la fibre, elle grossit un peu, mais après, la fibre, elle va être trop grande pour que le noyau dirige tout le domaine. Donc, il faut un deuxième noyau qui apparaît. Et donc, ce qui va te donner le noyau pour l'hypertrophie et pour permettre l'hypertrophie, c'est la cellule souche. J'espère que ça, c'est clair.
C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie.
Ben l'hyperplasie, après, c'est des nouvelles fibres, ce qui est encore autre chose. Non, ça c'est l'hypertrophie pure.
Ok.
Mais la cellule souche peut sûrement servir pour des nouvelles fibres, bien que ce soit encore un domaine controversé, mais il mesure ça avec il comptait les fibres et ils sont aperçus qu'ils sont plantés de façon monumentale à compter les fibres. Donc comment on sait qu'il y a des nouvelles fibres qui se créent? En fait, maintenant ils ont trouvé un truc qui est vachement plus malin. C'est qu'ils regardent l'expression des gènes. Et il y a des gènes qui ne sont exprimés que quand il y a des nouvelles fibres musculaires qui sont créées. Des trucs, par exemple, qu'on retrouve chez les nourrissons, mais pas chez l'adulte.
Comme? Tu peux donner, t'as les noms en tête?
Non, j'ai plus les noms en tête. Des gènes, ça n'apporterait rien. Mais quand ces gènes sont exprimés chez l'adulte, ce qui est très rare, ça n'existe quasiment pas, c'est qu'ils fabriquent de nouvelles fibres musculaires. C'est comme ça qu'ils savent qu'on gagne en fibres musculaires, alors que quand on comptait, il se plantait à tous les coups, parce que il comptait que très très peu de... Comment? Trop peu de fibres. Parce qu'évidemment, pour compter les fibres, faut en arracher un petit bout. Ah non, mais c'est ça, c'est comment... j'ai plus que ça, maintenant. Ils prennent un espèce de harpon, c'est en gros une grosse aiguille. Et il te la plante dans le muscle, et puis il retire un petit bout de muscle, et puis après il compte. Mais en fait, il aurait fallu faire beaucoup, beaucoup de prélèvements pour pouvoir...
Au final, tu finis sans muscle, quoi.
Non, mais quand même pas. Non, mais attends, t'as un gros harpon qui te rentre dans le muscle, et je sais pas si t'es tellement... Ils vont pas trouver trop de volontaires pour piquer. En fait, faudrait... Je crois que pour un muscle, fallait faire 6 prélèvements au lieu d'un. Et des mecs, avec un seul prélèvement. Donc c'est pour ça que longtemps on a dit que c'était pas possible de gagner des fibres musculaires, parce que la méthode de comptage était bidon. Et les mecs se sont plantés. Bon, ils s'en sont aperçus plus tard, mais pourtant les mecs, ils sont restés avec la conclusion qu'on gagnait pas de nouvelles fibres. Mais quand tu vois un mec comme Coleman, etc., tu peux pas te dire que le mec il a pas gagné des fibres. Donc, oui, voilà, on disait, donc l'entraînement traumatisant, en gros, ça sert à activer le nombre de cellules satellites, à activer la fabrication des cellules satellites.
Et justement, donc là, il y a Fabrice, il y avait une question déjà qu'il a posée le mois dernier, donc qu'il l'a reposée encore. Il voulait ton avis sur les anciennes vidéos de pro, où on voit des mecs qui s'entraînent très différemment, donc des mecs qui poussent lourd et d'autres rien du tout, comme Nasser qui poussait que dalle.
Non, attends, il a pas vu toutes les vidéos, parce qu'il a dû voir les vidéos...
Celles qui tournaient, tu sais, qui étaient...
Ah, mais Nasser, il y a 5-6 vidéos, et il y a une vidéo hors saison, je sais plus laquelle c'est, il pousse des trucs énormes.
Donc Dorian qui était vachement fort, Lebron très fort, et Cutler qui est moyen, quoi.
Où c'est que t'as vu que Dorian était très très fort?
C'est Fabrice qui dit ça, moi j'ai pas trouvé très fort, mais...
Non, parce que tu regardes au PEC, bon, il fait 180, moi je compare... Il faut comparer la vidéo d'Yes avec la deuxième vidéo de Flex Wheeler.
La deuxième vidéo, non, la première, tu veux dire,
non? Non, la deuxième, pas la première.
C'est laquelle, la deuxième?
La deuxième, c'est où il est avec Danny Esther, et puis ils sont en train de rigoler.
C'est Mass Construction, c'est celle-là ou pas?
C'est possible, ouais.
C'est celle où il est en débardeur et qu'il pousse?
Ouais, mais il est pas Richard Glass.
Ouais, bah celle-là, c'est celle qui est en débardeur noir, là.
Ouais, c'est celle qui est en couleur. Eh ben, tu compares les poids que Flex Wheeler y prend à quelques jours après Olympia à ceux que Yates y prend alors qu'il est hors saison et très gros. Eh ben, tu verras que Yates, il s'entraîne pas du tout lourd.
Donc, tu veux dire, en fait, que tous les pros sont forts?
Non, que Yates, alors, c'est lourd dans l'absolu, mais c'est pas très très lourd, Yates. Justement, il a un poids qu'il peut contrôler. Parce que tu regardes sur la machine, la Hammer à haute pec, je crois qu'il a 2,5 plaques. Alors que tu vois, Art Atwood, on en parlait, il fait un petit rappel pec dans une de ses vidéos où il a 5-6 plaques de chaque côté. Donc il a le triple et il fait un petit rappel léger. Alors que Yes, il a 2,5 plaques. Et Flex, pareil, Flex dans la vidéo, il avait au moins 5 plaques, parce que quand il repose le poids, il y a la plaque du bout, elle tombe. Donc Yates, non, c'est une erreur de dire que Yates s'entraîne lourd, et c'est une erreur de dire que Sombati s'entraîne léger. Faut se méfier toujours de ce qu'on voit en vidéo.
Donc si on compare, donc pour continuer avec Christian Fabrice, on compare Lebron et Cutler par exemple, Lebron il met vachement lourd quand même.
Ben quand il pouvait, ouais.
On voyait au coucher à 220, en faire 3-4, il faisait pratiquement ses séries 10 à 180 à l'incliné, les biceps il faisait pratiquement 50 kilos par bras.
Ouais, non mais là il a fait ça une fois pour la vidéo.
Donc en fait tous les mecs s'entraînent à peu près pareil, quoi, tu veux dire.
Ouais, de toute manière, il y a des moments où ils s'entraînent super lourd, ouais. Parce que on voit pas, la plupart des vidéos qu'on voit, par exemple sur Eric Muscle ou sur, Mutual Development, c'est pris une semaine avant les compètes. Alors de temps en temps, on a des vidéos hors saison.
Rare, parce que les mecs, ils veulent pas se montrer de toute façon hors saison.
Ils veulent pas se montrer, et puis ils n'ont pas vraiment intérêt à se montrer. Les mecs qui filment Mutual Development par exemple, faut qu'ils quand même ils déplacent un caméraman etc au fin fond du Texas, donc tout ça fait que on a surtout des vidéos qui sont faites quand les mecs sont très secs à une semaine du concours, donc faut se méfier de l'entraînement que tu vois à ce moment-là, quoi. Faut pas en tirer de conclusion, faut vraiment regarder les vidéos qui sont faites hors saison, puis il faut en voir plusieurs pour essayer de dégager des règles.
En gros, tu peux devenir pas énorme sans être fort, quoi.
Ah, les mecs sont énormes en ce moment, et la plupart des culturaux sont très 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 forts. C'est pour ça qu'ils développent des pathologies improbables après. Mais les mecs sont très 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 forts.
Justement, j'aimais bien l'exemple des épaules, parce qu'à l'époque, là, quand... On voyait Lebron qui mettait 160 aux épaules, tu disais que c'était énorme, alors toi, t'étais déjà vachement fort, tu disais que tu mettais une centaine, quoi.
Bah ouais, quand tu mets 100 kilos, déjà, ouais, attends, les mecs, qui c'est qu'on voyait, est-ce que c'était Cutler, déjà, enfin, une vidéo, peu de temps avant Olympia, il faisait du développé devant, avec des poids, il y avait au moins 140, 160, et ils t'enfilent ça comme ça, les mecs. Je me souviens, comment il y avait Santopani, alors il était encore amateur. Il avait sa première série de développés devant la nuque. Il prenait la barre à vide, la deuxième 100 kilos, boum.
L'échauffement?
Ouais, c'était l'échauffement. Non, il disait justement, je m'échauffe pas. J'ai mal aux épaules, je crois peut-être que je m'échauffe. Ça dans la vidéo. Je trouvais ça très drôle. Et bon. Le mec, ça, il passe à 100 kilos avec une facilité. Non, les mecs sont super forts.
Ouais, mais c'est vrai que quand on les voit dans les vidéos, on a pas de sensation qu'ils soient vraiment super forts. Tu les vois faire les bras, ils prennent pas.
Mais je te dis, la vidéo, en général, elle est prise une semaine avant la compétition. Donc, sinon, le mec, il a, comme ils ont déplacé le caméraman, le mec a enchaîné trois entraînements d'un coup. Parce que il faut rentabiliser le caméraman et donc ça, il l'explique dans la vidéo. En général, si t'écoutes ce qui se dit, mais la plupart des mecs comprennent pas. Puis après, ils tirent des conclusions. Le plus drôle que j'ai vu comme ça, c'est un powerlifter. Le mec, il avait un monolift, donc un monolift pour les squats. J'espère que tout le monde sait à peu près ce que c'est.
Donc c'est un repose-barre en fait, sans qu'on ait besoin de bouger. En fait, c'est lui qui bouge.
Pire, c'est le repose-barre intelligent. T'as pas besoin de reculer comme un con avec ta barre au squat. C'est le rack qui bouge plutôt que toi, ce qui est quand même très intelligent, et donc c'est pas un culturo qui l'aurait inventé. Et le mec, il est dans son monolift, et il recule. Alors on a eu une remarque d'un internaute très chino, qui disait « Ah, quel crétin, il sait même pas se servir d'un monolift !» Sauf dans dans la vidéo, le mec expliquait « Je prépare une compétition en Russie, et là-bas on n'aura pas de monolift. Donc c'est pour ça que je dois m'entraîner à reculer. » Donc, qui c'est le crétin? L'internaute, qui croit avoir tout compris, mais comme il comprenait pas l'anglais, il est incapable d'analyser la situation, ou le powerlifter. Donc, c'est pour ça, méfiance.
Bon, bah, Michael, t'avais déjà 1h02.
Bon, bah, voilà.
Ça s'est passé méga vite, on n'a pas encore vu le temps passer. Donc il reste encore une tonne de questions, donc on va essayer de traiter dans 2-3 semaines pour la suite.
Donc je crois qu'on peut conclure, méfiance des conclusions hâtives. Pour résumer le podcast d'aujourd'hui.
Donc justement dans le suivant, il y aura une question sur les exercices au poids de corps. Exprès pour toi.
Faut demander ça à Delavier, c'est son grand truc maintenant.
Ouais, j'ai vu les vidéos là, il fait des muscle-up et compagnie. Il s'amuse bien, il y a un mec justement qui lui dit que c'est pas très fluide.
Méfions-nous des conclusions. Parce que là, dans la salle, on le voit, c'est les barres des vis-à-vis. Et les barres des vis-à-vis, toi, t'as la barre d'un côté, t'as un trou et la barre de l'autre côté. Alors que les muscle-up, quand t'arrives à moitié du mouvement, en fait, tu poses tes abdos sur la barre, et c'est ça qui te fait faire une bascule et tu remontes. Et donc, quand la barre, elle est ouverte au milieu, tu peux pas faire la bascule. C'est pour ça que le mouvement, il est pas fluide. Mais dès qu'il aura une barre qui va de part et d'autre, tu verras que c'est plus fluide et il en fera plus.
Donc, nous parlerons des exercices au poids de corps dans...
Méfions-nous
des conclusions hâtives.
Hâtives. Ouais, non, mais il fait pas que ça, parce qu'il s'entraîne c'est pareil, on le voit pas, mais il s'entraîne en lesté, entre deux. Pour gagner de la force.
En traction?
Ouais. Ouais, parce qu'il veut faire...
Il potentie?
Non, mais tu t'entraînes, t'essayes de t'entraîner un peu plus lourd, que c'est ça qui te fait progresser. C'est ça qui te fait progresser, c'est quand tu t'entraînes un peu plus lourd que ceux que... Parce que là, en fait, il fait pas ça pour s'entraîner, etc., c'est qu'il prépare les concours.
Mais pareil, pour des concours de quoi?
Bah de traction, t'as bien vu qu'au Fibo...
Ah, dans les salons?
Bah, entre autres, non, mais je crois qu'il veut faire les concours aussi, que les mecs, il avait mis une vidéo, maintenant il y a des concours dans les banlieues, etc.
Ouais, ils appellent ça, ouais, j'ai vu ça aussi.
Des street workouts.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et donc, pourquoi il s'entraîne au poids de corps? C'est parce qu'il, c'est pas pour l'entraînement au poids de corps ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il prépare les concours. Mais il s'entraîne beaucoup lesté.
Ah, tu peux nous dire qu'ils se fournissent chez Ikea, on a compris.
Bah là, non. Bah, je sais pas, t'en as vu beaucoup chez Ikea faire des nostalgies.
Ouais.
C'est difficile le muscle up. J'invite tout le monde. Alors faut faire attention à la hauteur de plafond. Hein.
Là, ils ont une progression.
Mais comment essayer. Et puis après on en reparle. Mais non, mais il veut faire tous les concours de traction. Pour ça qu'il se prépare comme ça. Parce que là, les mecs critiquent ces tractions, mais sur le même concours, donc. Les mêmes critères de jugement à Olympia 2 années, à l'Arnold, je crois que c'est 1 ou 2 années, en Angleterre au FIBO, il y a qu'un mec qui l'a battu et qui a fait une rep de plus, c'est tout. Au traction.
Donc il veut rafler.
Il veut l'éclater la prochaine fois. Donc voilà pourquoi il fait. Mais il fait pas comment. Il fait pas du poids de corps parce que c'est plus efficace ou quoi que ce soit. C'est uniquement parce qu'il prépare les concours.
Donc méfiez-vous des conclusions hâtives.
Voilà. Attention aux conclusions hâtives.
Bon bah, nous souhaitons donc une bonne écoute à tous nos auditeurs.
Bonne réflexion.
Et à bientôt sur Super Physique.
Au revoir.
Salut.